Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Point de vue. Aujourd'hui, plein feu sur la santé mentale. Une semaine qui sera pour nous le prétexte d'un documentaire, un reportage long que nous ramène notre reporter Frédéric Lévesque. Frédéric, qui évolue dans un village d'à peine une centaine d'habitants planté au milieu d'une région éloignée et où tous les services sont difficiles à atteindre. Et Frédéric s'est demandé comment, dans ce contexte, les personnes en détresse se débrouillent quand elles vivent des moments difficiles, des moments critiques, des moments de détresse psychologique, des questions qui valent pour des centaines de communautés à travers le pays. Sur quels services pouvons-nous compter? À quels services avons-nous réellement accès? Quelle est leur nature?
Les petites communautés éloignées font face à des défis uniques. Hein, ils vivent loin, ils doivent prendre des moyens de transport sur de grandes distances pour avoir accès. Puis quand il y a des services, ben, généralement, c'est débordé, les listes d'attente sont pleines, le personnel, on peut avoir un roulement élevé de personnel et les infrastructures de communication peuvent être insuffisantes.
C'est certain que lorsqu'on a un suivi à distance, on n'a pas le même lien que lorsqu'on peut se voir ensemble dans un bureau puis vraiment partager un moment. Le lien n'est pas le même. Tandis que lorsqu'ils viennent au bureau, on a des échanges un peu « Hey, salut, ça va? » Tandis que c'est beaucoup plus chaleureux, en fait.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bienvenue, merci d'être là, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. On se dirige aujourd'hui vers la Basse-Côte-Nord, au Québec, pour vous parler de santé mentale, une région qui souffre d'un manque chronique de services en santé mentale. La Basse-Côte-Nord est un territoire situé au nord de la province du Québec, face à l'immensité du golfe du Saint-Laurent, à Terre-Neuve aussi, passé l'île d'Anticosti, un territoire situé à quelques 1600 km de Montréal. L'isolement géographique et linguistique des communautés qui vivent en Basse-Côte-Nord compromettent leur accès à des services adaptés en santé mentale. Les villages sont peu peuplés et cette statistique à elle seule est l'un des facteurs de risque pour le maintien d'une bonne santé mentale. Si le maillage des réseaux communautaires publics et privés ainsi que l'accès à des services en ligne comme la psychothérapie en ligne offrent réunis un certain filet de sécurité aux citoyens, un certain répit, cela n'est certainement pas toujours suffisant. Une situation d'ailleurs que déplore la majorité des intervenantes à qui Frédéric Lévesque a parlé dans le reportage que l'on va écouter. Cependant, la résilience des communautés et des personnes qui composent ces communautés demeure la ressource la plus porteuse d'espoir pour les populations qui les composent. Alors que le Québec vient de conclure sa 35e semaine de prévention du suicide, on découvre dans ce documentaire comment on fait pour avoir accès aux services en santé mentale dans une région qui ne compte par exemple aucun lien routier. Les gouvernements provinciaux et des territoires sont bien conscients des problèmes que pose l'éloignement quand il s'agit de santé, la Basse-Côte-Nord qui partage les mêmes difficultés. Nous parlons donc de santé mentale en région éloignée avec Frédéric Lévesque, posté à Tête à la Baleine au Québec, qui nous propose ce reportage accompagné d'une foule d'intervenantes du secteur de la santé.
La santé mentale est un terme assez large que Maryse Villemur, coordonnatrice du réseau régional pour les organismes communautaires et alternatifs en santé mentale de la Côte-Nord, décrit comme un état.
On parle souvent de la santé mentale comme une maladie. Et la santé mentale, ce n'est pas une maladie. La santé mentale, c'est un état. Donc, c'est un équilibre entre le physique, le social, l'économique, le spirituel, l'émotionnel et le mental. Une bonne santé mentale, ça nous permet d'agir, de réagir toute la journée.
Kayla Kippen, directrice des initiatives en santé de l'Association des Coasters, un regroupement local, nous explique que les communautés de la Basse-Côte-Nord ont malheureusement accès à très peu de ressources, qu'elles soient de nature communautaire ou privée. Il s'agit justement d'un sujet abordé systématiquement depuis un an à une table de concertation de l'Association des Coasters sur le sujet de la santé. La table de concertation regroupe des acteurs du domaine pour parler de l'accessibilité aux services de santé et services sociaux pour les anglophones de la région. Rappelons que les anglophones constituent la majorité de la population de la Basse-Côte-Nord. En plus de la barrière de la langue, plusieurs enjeux spécifiques existent en lien avec les accès aux services de santé mentale dans les petites communautés isolées de la région. Marie-Claude Roberge, psychologue et neuropsychologue de formation, nous en parle.
Les petites communautés éloignées font face à des défis uniques par rapport aux accès aux services de santé mentale. Tout d'abord, hein, ils vivent loin, ils doivent prendre des moyens de transport sur de grandes distances pour avoir accès. Puis quand il y a des services, ben généralement c'est débordé, les listes d'attente sont pleines, le personnel, on peut avoir un roulement élevé de personnel et les infrastructures de communication peuvent être insuffisantes.
Marie-Claude Roberge est aussi présidente et fondatrice de Trauma Côte-Nord, une organisation privée basée à Sept-Îles depuis 2021. Elle constate que le besoin de services spécialisés est bien présent dans la région.
Dans les petites communautés, on a quand même des taux assez élevés de stigmatisation santé mentale parce que c'est très difficile de préserver la vie privée des gens. On a souvent les besoins de base qui sont compromis étant donné qu'ils sont éloignés, comme la sécurité alimentaire, le logement, le transport, l'accès à l'eau potable. Les transports aériens ou terrestres sont difficiles. Puis, il y a souvent moins de possibilités économiques, ce qui veut dire que les gens ont généralement pas autant d'argent pour se payer des soins et peuvent être sans emploi ou sous-employés ou sur l'aide sociale. Et en plus, on remarque que sur la Côte-Nord, particulièrement, il y a des taux élevés de suicides, de traumatismes intergénérationnels et d'infractions sexuelles plus élevés que partout ailleurs sur le Québec. Donc ça fait en sorte que des gens qui vivent des traumas, pas accès à des ressources, on va avoir aussi un taux plus élevé de consommation de substances, drogue, alcool et autres, ce qui fait que la personne a beaucoup plus de difficultés à s'en remettre. Et si elle a des traitements, ben la consommation, c'est souvent pas compatible non plus avec une psychothérapie. Donc, c'est plus difficile de traiter à ce moment-là.
Le réseau public offre un certain filet de sécurité pour les personnes ayant des enjeux de santé mentale ou en situation de crise. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord a justement reçu du financement pour améliorer ses services dans la prochaine année, explique Raymond De Jones, coordonnatrice par intérim de territoire pour la Basse-Côte-Nord.
La Côte-Nord a reçu environ 520 000 $ pour accroître l'accessibilité aux services pour la clientèle de santé mentale adulte pour l'année 2024 et 2025. Fait que ce financement permet le rehaussement des heures et des équipes en santé mentale. Et jusqu'à maintenant, l'investissement a permis de poursuivre et de mettre en place de nouvelles modalités pour offrir un service plus rapide aux personnes qui font la demande.
Toutes les intervenantes à qui nous avons parlé s'entendent pour dire qu'il ne faut pas attendre pour aller chercher de l'aide. C'est aussi le message que lance le 6 de la Côte-Nord. Raymond De Jones et Karine Bujold, directrice adjointe à la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance, expliquent que la principale porte d'entrée à leur service est la ligne bilingue infosociale 811 option 2. La ligne est reliée au service régional de l'accueil, analyse, orientation et référence. Raymond De Jones et Karine Bujold du 6 Côte-Nord soulignent aussi que les personnes de la Basse-Côte-Nord peuvent avoir accès à des services psychosociaux à travers eux, en plus d'ateliers disponibles sur la santé mentale. Les rencontres avec les psychologues se font à distance avec des services en télésanté, mais des intervenants sociaux comme des éducateurs et des agents de relations humaines sont présents dans deux communautés, à savoir Harrington Harbor et Blanc-Sablon. Ces intervenants peuvent se déplacer vers le patient dans le besoin. Il faut compter un temps d'attente entre 3 à 12 mois. Les situations urgentes sont gérées dans les 24 à 72 heures. Depuis la pandémie, un réseau d'éclaireurs a aussi été mis en place sur la Basse-Côte-Nord. Des membres des communautés deviennent donc des ambassadeurs du bien-être. Ils sont épaulés par une équipe relais et une coordonnatrice de la mesure des éclaireurs, mesure pour laquelle des sommes viennent d'être investies.
Sur la Basse-Côte-Nord, on compte présentement au moins 20 personnes.
Ces éclaireurs, à l'écoute de la détresse psychologique de leurs concitoyens, peuvent orienter les gens vers le bon service.
C'est vraiment d'être les yeux et les oreilles de leur milieu.
Le 6 de la Côte-Nord se dit être dans un processus d'amélioration continue. Devant la liste d'attente du réseau public et les nécessités de déplacement pour avoir accès à certains services spécialisés, les gens pourraient vouloir se tourner vers des alternatives et des services complémentaires. L'isolement géographique amène donc son lot de défis au niveau de l'accès à des services de santé mentale, mais les spécificités régionales peuvent aussi menacer le rétablissement d'une personne. Jennifer Bezo, directrice générale d'Équilibre Santé Côte-Nord et nutritionniste, nous donne l'exemple d'une personne vivant avec des troubles alimentaires.
Ce que j'ai remarqué, c'est quand la personne est sur le chemin du rétablissement, l'accessibilité aux aliments peut être plus compliquée. Quand on connaît un peu les troubles alimentaires, on sait que toutes les excuses sont bonnes parfois pour ne pas manger. Alors, quelqu'un qui est sur le chemin du rétablissement, admettons qu'il veut aller, je sais pas, s'acheter du lait sans lactose, mais des fois, c'est un aliment, de ce que j'ai compris, qui peut peut-être disparaître un peu plus rapidement des tablettes. Alors, si c'est le cas, ben la personne va juste faire « Ah, ben tu sais, je consommerai pas mon produit laitier, c'est pas grave. » Donc, à ce moment-là, ça peut quand même avoir des impacts. Puis le trouble alimentaire peut profiter malheureusement de ça.
Il n'y aurait que 4 organismes communautaires orientés spécifiquement sur la santé mentale qui couvrent toute la région et qui ont donc un mandat régional. Le Centre de prévention du suicide, Équilibre Santé, qui œuvre au niveau des troubles alimentaires, Santé mentale Québec, qui travaille en promotion, et Droits et recours en santé mentale. Parmi les 4, seulement 2 font de l'intervention et un seul de ces 2 organismes d'intervention est accessible en anglais. La coordonnatrice du ROCASM Côte-Nord souligne l'importance d'avoir un réseau communautaire présent en santé mentale pour en assurer l'accessibilité à tous. Avoir un accès rapide aux services a un impact dans le rétablissement ou en cas de crise. La directrice de l'organisme Équilibre Santé Côte-Nord rejoint Maryse Villemur quant à l'importance d'avoir accès à des services en santé mentale accessibles, par exemple en termes financiers. Elle pense aux personnes qui ont besoin de tout un réseau de professionnels dans leur cheminement, comme c'est le cas des personnes avec un trouble alimentaire.
C'est beaucoup de rencontres et généralement, c'est pas seulement une personne. Donc, ils vont pas seulement rencontrer la nutritionniste. Généralement, ils vont avoir besoin d'avoir un médecin qui les suit, travailleur ou travailleuse sociale, peut-être un éducateur spécialisé. T'sais, ça peut vraiment être très varié. Donc, on veut pas commencer à charger des frais pour un service comme ça.
Le ROCASM Côte-Nord existe depuis 1992. Tous les organismes membres sont financés par le PESOC, le Programme de soutien aux organismes communautaires en santé mentale. Le regroupement milite constamment contre le sous-financement de ces organismes.
C'est difficile d'aller dire, les gens ont besoin, exemple, on aurait besoin de plus de médecins, d'infirmières, de psychologues, tout ça. On sait que tout ça, il y a des sous-effectifs partout. On peut pas aller jusque-là, c'est pas notre rôle, mais c'est beaucoup le sous-financement.
Un constat que fait aussi Jennifer Bezo d'Équilibre Santé Côte-Nord, membre du regroupement.
En tant qu'organisme régional, on se sent très impuissant par rapport au financement. Il y a quand même du travail qui a été fait à savoir combien chaque organisme devrait recevoir dans un monde idéal pour être capable de desservir l'entièreté de la Côte-Nord. Souvent, on n'est pas capable d'atteindre ces montants-là parce qu'on est sous-financé. Équilibre Santé Côte-Nord, tout comme beaucoup d'autres organismes régionaux. En ce moment, on reçoit à peu près 30 % de ce qu'on devrait avoir, ce qui fait que ça ne nous permet même pas d'avoir suffisamment d'employés seulement pour couvrir la MRC de cette rivière. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est certain, on aimerait avoir plus de sous pour être capable d'aider les gens, puis pas seulement offrir des services à distance.
Le moteur de recherche du site Web de l'Ordre des psychologues du Québec ne répertorie aucun psychologue sur la Basse-Côte-Nord. Cela n'est pas un hasard. Tania Monger est psychologue de formation et elle est aussi originaire de Tête-à-la-Baleine. Elle cumule une dizaine d'années d'expérience dans son domaine au Nouveau-Brunswick. Elle explique que les enjeux que représente la pratique de son métier dans une petite communauté sont nombreux.
C'est sûr qu'au niveau de notre code déontologique et éthique, il faut éviter à tout prix les relations doubles. Puis c'est vraiment pour protéger le client puis pour protéger la relation thérapeutique au fait parce que c'est sûr que d'être objectif, c'est humainement impossible, mais dans le cadre, c'est important d'être le plus objectif possible. Puis vraiment laisser la place à toute l'histoire du client au final. Donc, on évite de parler de nous en session. Tu sais, on n'est pas très recommandé là, parce qu'on laisse la place au client. Puis il y aurait certainement un malaise aussi pour un client de venir voir quelqu'un qui connaît déjà puis qui a déjà, peut-être même été à l'école avec ou...
Cela oblige les psychologues à se délocaliser de leur village pour pratiquer ou à offrir leurs services en ligne à des gens qui n'habitent pas leur communauté.
Évidemment, tu sais, au niveau de la confidentialité aussi, ce serait probablement difficile pour un client de faire confiance, que ce soit absolument confidentiel, tu sais, même se déplacer à quelque part, les gens voient où tu vas. Puis avec tous les tabous qui persistent au niveau de la santé mentale, que les gens sachent que tu consultes un professionnel de la santé, c'est pas plaisant, là.
Dans tous les cas, la présence de psychologues formés sur le territoire ne permettrait pas nécessairement une augmentation des services pour les populations. Les rencontres virtuelles qui ont été popularisées pendant la pandémie de COVID-19 sont un bel outil pour favoriser l'accès à l'intervention sur la Basse-Côte-Nord. Plusieurs services sont accessibles de cette façon, ainsi que via une ligne téléphonique. C'est le cas pour le Centre de prévention du suicide, par exemple. Cependant, leurs services sont exclusivement offerts en français, nous explique Gladys Tremblay, directrice générale du CPS de la Côte-Nord.
Nous, ce qu'on a d'entente encore avec le CIS, c'est que les gens vont être rebasculés au 811 pour avoir le service, là, justement, en anglais. Donc, la personne... on va la garder en ligne avec nous jusqu'à temps qu'elle soit prise en charge là, par le 811 pour s'assurer que la personne ne raccroche pas ou autre, là, qu'on fasse le suivi avec elle là, pour avoir un meilleur suivi aussi.
Pour aller rejoindre les gens de la Basse-Côte-Nord et pour pallier les défis de recrutement de personnel, Marie-Claude Roberge de Trauma Côte-Nord travaille à l'élaboration d'une clinique virtuelle spécialisée pour les traumas.
Je suis présentement en train d'essayer de recruter des psychologues à distance pour offrir un service de psychothérapie spécialisé en virtuel. Donc, ça sont lot de défis parce que les gens ne nous connaissent pas nécessairement dans le Québec. On commence à se faire connaître, mais on n'est pas tant connus. Et tous les psychologues de partout sont pleins ou ne prennent plus de clientèle. Alors là, moi, je vise sur le projet spécial parce qu'il n'y a pas vraiment de clinique spécialisée pour le trauma en virtuel au Québec. Fait qu'on vise là-dessus. J'ai quelques psychologues intéressés déjà et je vais continuer là-dessus.
Si la possibilité d'un accompagnement à distance peut être un grand soulagement, cela n'équivaut pas à un suivi en présentiel, souligne Jennifer Bezo d'Équilibre Santé Côte-Nord.
C'est certain que lorsqu'on a un suivi à distance, on n'a pas le même lien que lorsqu'on peut se voir ensemble dans un bureau puis vraiment partager un moment. Je trouve que le taux d'absentéisme est plus élevé. Les gens ont plus tendance à annuler leur rendez-vous lorsqu'on ne s'est jamais vu en vrai. Le lien n'est pas le même. Tandis que lorsqu'ils viennent au bureau, on a des échanges un peu « Hey, salut, ça va? » Tandis que c'est beaucoup plus chaleureux, en fait. Il y a l'accueil dans nos bureaux, on va leur proposer quelque chose à boire. Tandis que lorsque c'est un service à distance ou est-ce que juste la consultation par visioconférence, on fait la rencontre, on dirait qu'il manque le petit plus, il manque le côté chaleureux humain.
Malgré le manque de ressources communautaires accessibles dans les communautés, les proches peuvent s'avérer un soutien essentiel lorsqu'une personne traverse une période difficile. Gladys Tremblay nous explique que l'isolement qui sort des habitudes d'une personne est l'une des choses desquelles il faut se préoccuper en lien avec les idéations suicidaires, surtout lorsque cet isolement est lié à un discours alarmant.
C'est une parole que comment je vous donnerais comme exemple. De toute manière, moi, ça va se régler bientôt. Des fois, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, d'aller creuser un petit peu plus là, au niveau de ces questions-là. Des fois, le langage aussi, des choses comme ça là, qui peuvent être...
D'autres symptômes peuvent être indicateurs d'une détresse psychologique, souligne Marie-Claude Roberge.
Normalement, quand on parle d'un événement traumatique, on va penser à des problèmes de sommeil, des cauchemars, des pensées intrusives, des flashbacks, l'hypervigilance, des troubles digestifs, des troubles de concentration. Dans le premier mois suivant un événement traumatique, c'est ce qu'on appelle des symptômes de stress aigu. Et ça risque de se résorber par eux-mêmes. Si ça persiste au-delà d'un mois, puis que la détresse est envahissante et qu'on n'est pas en mesure de mettre ça de côté, alors à ce moment-là, il faut se poser une question et peut-être aller chercher de l'aide.
Mais dans le fond, c'est de travailler à valoriser la demande d'aide. Comment c'est important d'aller chercher le soutien qu'on a besoin auprès des personnes qu'on a, puis après ça, d'être rebasculé vers un service pour elle. Là, c'est ça l'important. La personne ne doit pas se mettre de barrière pour ça. Là.
Valoriser la demande d'aide, comme le dit la directrice du CPS de la Côte-Nord, mais aussi déboulonner les mythes en lien avec la santé mentale, comme ceux entourant les traumas et le trouble de stress post-traumatique, comme l'explique Marie-Claude Roberge de Trauma Côte-Nord.
Bien, tout d'abord, c'est important de savoir qu'un trauma n'implique pas nécessairement une vie menacée ou une menace de mort. Donc, on pense souvent, quand on parle de troubles de stress post-traumatique, la plupart de mes clients pensent l'armée, la guerre, mais non, effectivement non. Un trauma, sans être un trouble de stress post-traumatique peut être le fait que je sois adoptée, que j'ai divorcé, que j'ai une rupture amoureuse, que j'ai vu un accident, que j'ai participer à quelque chose de criminel. Ça peut être n'importe quoi, un trauma. Quand ça devient un trouble de stress post-traumatique, ben en fait, ça aussi, c'est important de la méconception. C'est pas tout le monde qui va développer un trouble de stress post-traumatique. Puis, on n'a pas aussi un des mythes que les gens pensent qu'il faut absolument vivre le trauma pour avoir un trouble de stress post-traumatique. La plupart du temps, les témoins, c'est pire. Par exemple, c'est pas rare que j'ai des gens qui sont impliqués dans des accidents de travail et que quelqu'un voit son collègue de travail presque mourir ou être blessé sérieusement. Alors, il y a beaucoup d'émotions de peur et d'impuissance de ne pas avoir pu faire rien. Donc, ça peut être suffisant pour développer un trouble de stress post-traumatique aussi. Puis, un autre mythe, c'est que c'est pas nécessairement les changements dus au trauma ne sont pas nécessairement pour toute la vie. Donc, et parce que souvent les gens pensent que les traumas vont affecter le cerveau pour toujours, la vie pour toujours. Il y a des gens qui s'améliorent, il y a des gens qui récupèrent, qui reprennent leur vie et qui sont très fonctionnels au travail et dans leur vie personnelle.
Pour favoriser le dialogue dans les communautés locales, le CPS de la Côte-Nord lance un projet dans deux communautés Innu de la Basse-Côte-Nord. Les cafétérias des écoles d'Unamen-Chipu et de Pakwashipi pourront ainsi écrire sur des tableaux interactifs, permettant d'engager la discussion chez les jeunes du secondaire, que ce soit avec des collègues de classe ou le personnel scolaire. Le projet porte le nom « Nidenai ».
C'est un tableau, je vous dirais, c'est à 3x6, un gros tableau où il y a déjà une bulle qui va entamer une conversation. J'aime, 3 petits points, je me sens, 3 petits points. Donc, toutes sortes de bulles, c'est coloré, où le jeune viendra inscrire quelque chose, puis la personne pourra lui répondre là, à même ce tableau-là.
Gladys Tremblay nous parle aussi d'une campagne régionale qui sera déclenchée après la semaine de prévention du suicide, la campagne Ensemble tissons l'espoir, qui aura des thématiques saisonnières. Elle explique aussi l'existence d'une formation accessible en ligne pour la population générale, la formation Sentinelle. Pour toute personne qui en ressentirait le besoin, Gladys Tremblay du CPS de la Côte-Nord rappelle la présence de différentes ressources disponibles à distance dans la région qui peuvent transférer les personnes vers des services bilingues au besoin.
La ligne d'intervention, comme je vous disais, le 1-866 appel, là, qui est partout au Québec. Il y a aussi maintenant les plateformes, souvent qu'on oublie, là, suicide.ca. Pour avoir de l'information ou parler du suicide aussi, qui est une autre plateforme où vous allez apprendre beaucoup de choses sur le suicide, comment mettre en place aussi des choses là, pour nous aider, par texto aussi, que les gens ils peuvent clavarder.
On dit souvent de la population de la Basse-Côte-Nord qu'elle est résiliente. D'après Marie-Claude Roberge, psychologue et neuropsychologue, la résilience est justement la réponse la plus commune face à un événement traumatique.
Bien, c'est être capable de surmonter une épreuve très difficile pour nous avec de l'aide de nos proches, avec de l'aide externe professionnelle et d'être capable d'en sortir pas nécessairement gagnant, mais meilleur et avoir grandi de cette expérience-là.
La résilience en cas de vécu difficile et d'enjeux de santé mentale est une ressource porteuse d'espoir. Tania Monger, psychologue originaire de Tête-à-la-Baleine, élabore sur la notion et sur les facteurs de protection particuliers à la Basse-Côte-Nord.
Je pense que certains facteurs de résilience au niveau de la connectivité, on le sait que la connectivité, c'est un facteur évidemment de longévité, mais c'est un facteur aussi qui promouvoit la bonne santé mentale, le bien-être. Et puis, c'est tellement riche de cette connectivité-là dans les petits villages où est-ce que... Puis ça veut pas dire que tu es obligé d'avoir une conversation, tu sais, tout en profondeur avec quelqu'un, mais la connectivité, c'est aussi saluer des gens au magasin, c'est aussi saluer des gens en skidoo. Tout le monde se connaît, puis il y a cette richesse-là, je pense, qui protège en quelque sorte les gens. On sait aussi que la nature est un facteur déterminant au niveau d'une bonne santé mentale. Il y avait des recherches vraiment intéressantes. Là, on faisait les gens même marcher sur une rue dans la ville versus marcher dans la forêt, puis les mesures de stress étaient juste avec une petite marche comme ça, c'était flagrant qu'il y avait des stresseurs à être dans un environnement plus de ville. Fait que la proximité à la nature, je pense que c'est effectivement bon pour le système nerveux, la santé mentale, puis aussi toute l'approche avec la lenteur. On sait que la lenteur, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare dans nos vies complexes. Où est-ce que les routines, je veux dire, tout est compliqué, là, souvent en ville, même aller faire l'épicerie, ça prend 2 heures, tu sais. Puis pas pour dire qu'il n'y a pas de défi à vivre à la Basse-Côte, en Basse-Côte-Nord, mais il y a une lenteur, une relation avec le temps qui est restée, je pense, plus saine. Pour un système nerveux plus déposé, tu sais. Fait que je pense que c'est des choses quand même qui contribuent à des facteurs de protection, point de vue. Puis c'est sûr qu'il y a des défis, là, mais je voulais souligner quand même peut-être les facteurs de protection plus uniques, surtout qu'on sait que, tu sais, bon, c'est un isolement géographique, mais c'est pas nécessairement un isolement humain. Oui, c'est ça. Je voulais juste souligner un petit peu la résilience aussi de la Basse-Côte-Nord.
C'était Frédéric Lévesque, à tête à la baleine pour l'IJL.
Gaëlle Mpoyo s'est quant à lui intéressée à la détresse vécue par les intervenants eux-mêmes qui s'oublient souvent dans cette équation. De plus en plus de professionnels vivent un épuisement émotionnel profond, à tel point qu'il devient difficile pour eux de continuer à aider les autres, s'inquiète Andrew Keys, conseiller en santé mentale au Centre de santé de Saint-Boniface au Manitoba. Écoutez donc le reportage de Gaëlle Mpoyo à Winnipeg sur fréquenceinfo.ca. Gaël, qui est l'un des journalistes à produire une foule de sujets très différents sur fréquenceinfo.ca, on vous parle de centaines de topos réalisés chaque mois par une vingtaine de journalistes francophones postés d'est en ouest au pays. Qui sont-ils? Eh bien, des hommes, des femmes qui œuvrent au sein des radios universitaires et communautaires du pays. Lesquelles radios sont presque toutes membres, par exemple, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, là, il y en a une trentaine, de l'Association des radios communautaires du Québec, une quarantaine. Et comme on produit aussi en anglais via frequencynews.ca, on a aussi près de 30 journalistes anglophones et autochtones, même latino-américains et ukrainiens, à l'œuvre pour les radios membres de la National Campus and Community Radio Association, NCRA, qui compte plus d'une centaine de radios membres. Tout ce beau monde participe au rayonnement de l'information locale, mais aussi au renforcement d'un réseau de près de 200 radios communautaires francophones, anglophones et autochtones au pays. On remercie tout ce beau monde qui travaille avec nous, à l'initiative de journalisme local, au Fonds canadien de la radio communautaire et dans tout le secteur de la radio communautaire au pays. Et c'est sur ces bons mots que l'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Frédéric Lévesque, qui a occupé presque toute l'émission. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa et de l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là chaque semaine. Vous voulez réagir à ce reportage ou nous dire qui vous êtes, où vous êtes? Écrivez, si ça vous tente, radio@fréquenceinfo.ca. Allez, c'est tout. À la semaine prochaine. Ciao.